Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de l'Écho à contre-courant où aujourd'hui nous allons faire un petit pas de côté par rapport à l'actualité. Nous allons nous interroger sur la politique de l'offre et est-ce qu'il y a une autre politique de l'offre possible? Alors on sait que le gouvernement actuel a centré sa stratégie économique sur la politique de l'offre, une politique de l'offre classique, néolibérale, fondée sur la baisse des impôts, la baisse du coût du travail, les réformes structurelles. Et nous, on va essayer aujourd'hui de s'interroger pour savoir est-ce qu'on peut aujourd'hui mettre en place, réfléchir à une politique de l'offre alternative, différente, plus respectueuse des travailleurs et des consommateurs et des citoyens. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Raveau. Bonjour Gilles.
Bonjour Romaric.
Gilles Raveau, vous êtes économiste, vous enseignez à Paris 8, vous avez enseigné, je crois, à Harvard.
Quand j'étais jeune, voilà.
C'est ça. Et vous avez donc publié en 2018, c'est 2018 je crois, hein, ce livre « Économie, on n'a pas tout essayé » aux éditions du Seuil. Et vous parlez notamment, vous vous intéressez beaucoup à cette question de la production et de l'offre productive dans une perspective, on va dire, hétérodoxe et en tout cas différente de celle qui est aujourd'hui prônée par les néolibéraux et le gouvernement français. Alors, avant de venir un peu au détail de ce que pourrait être cette politique de l'offre, on va revenir un peu à l'essentiel. Le premier point, c'est que finalement, à gauche, pour faire simple, on parle beaucoup de redistribution, on parle beaucoup de circulation, de consommation, de relance de la consommation, d'impôts, de prélèvements, de choses comme ça. On parle un peu moins de la production, qui est un peu laissée finalement bien aux néolibéraux. Hein, c'est un peu finalement une politique de l'offre, hein, c'est une politique néolibérale. Et vous, ce que vous dites, c'est que finalement, les grands penseurs alternatifs, enfin, les grands penseurs de hétérodoxe, que sont Keynes et Marx au départ, notamment, eux, eh bien, ils ont centré leur pensée sur la production, tout par-delà, d'une certaine façon.
Ben c'est ça. C'est vraiment c'est impressionnant à quel point ça a été oublié. C'est-à-dire que quand on lit, mais encore faut-il le faire, c'est bien le problème, quand on lit Marx, quand on lit Keynes, c'est même pas que les producteurs sont présents, c'est qu'ils ne parlent que de ça. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui est su par tous les gens qui n'ont pas lu Marx, Marx n'est pas un théoricien, par exemple, du socialisme. Ce n'est pas vrai. C'est d'abord un observateur. Marx, quand il écrit, il est en Angleterre, il est au cœur de la révolution industrielle, il écrit au milieu du 19e siècle. Et pourquoi est-ce qu'il a été l'auteur le plus lu dans le monde pendant des décennies? C'est parce qu'il comprend ce qui se passe. Il comprend qu'il y a un nouveau monde qui naît. Et il est fasciné par le capitalisme. Marx, c'est le fan number one du capitalisme. Il dit, effectivement, il y a un monde nouveau qui est créé par les capitalistes, et il attache beaucoup d'importance aux objets, au processus de production. Quand on lit Marx, évidemment, il y a des passages très théoriques sur la théorie de la valeur, qui sont très connus, mais il y a aussi des dizaines de pages, même des centaines, où il reprend des rapports de l'inspection du travail, et il nous explique comment ça se passe dans les fabriques, dans les manufactures, il décrit très précisément hein, les objets, et même des termes techniques sur des métiers qui ont disparu, évidemment, aujourd'hui. Il parle du travail des femmes, il parle du travail des enfants, il dit qu'on travaille en famille, et il nous dit, effectivement, que toute la société est façonnée par les décisions qui sont prises par les producteurs, qui sont les capitalistes. Mais une des définitions du capitalisme, hein, c'est la propriété privée des moyens de production. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont finalement très peu nombreux, qui façonnent le monde dans lequel nous vivons, qui décidons, par exemple, de la forme de nos téléphones portables. Il y a des éditeurs qui décident de publier des auteurs ou pas. Il y a des gens qui construisent des voitures thermiques ou des voitures électriques. Ces gens sont très peu nombreux et c'est eux qui font le monde. Même chose chez Keynes. Quand on lit la théorie générale de Keynes, il nous dit ce sont les entrepreneurs qui décident du niveau de l'emploi. Et il dit bien, Keynes, les entrepreneurs, ils n'en ont rien à foutre du niveau de l'emploi. Ce qui les intéresse, c'est les profits. Et ils vont embaucher quand ils vont investir, et ils vont investir s'ils pensent faire des profits. Et Keynes nous dit, bon ben voilà, soit les entrepreneurs ils sont contents, soit ils ne sont pas contents, soit ils sont heureux, soit ils sont malheureux. Il y a tout un aspect psychologique chez Keynes qui était très bien souligné dans le merveilleux petit livre de Bernard Maris, Keynes, l'économiste citoyen, qui est vraiment centré sur les aspects psychologiques de l'économie. Et donc Keynes, encore une fois, il nous dit la fonction sociale des entrepreneurs, c'est d'investir. Et il nous dit, ben voilà, donc les gars, ils vont décider, comme par exemple aujourd'hui, voilà, de faire des voitures électriques. Et donc ça va créer des emplois. Et puis il nous dit, de l'autre côté, il y a des gens qui arrivent et qui cherchent du travail. Et Keynes, il nous dit un truc très simple, et qui est d'une vérité scientifique absolue. Il nous dit, ces deux processus n'ont rien à voir. Il y a d'un côté des gens qui créent des emplois, parce qu'encore une fois, ils veulent faire de l'argent, c'est très clair. Et de l'autre côté, il y a des gens qui cherchent du travail. Et pourquoi est-ce que ce serait le même nombre? Et pourquoi est-ce que les besoins de formation, ça serait les mêmes que les gens qui sortent de l'école? Il n'y a aucune raison. Et donc Keynes nous dit la situation normale, au sens fondamental de ce terme, au sens statistique du terme, la situation normale, moyenne, c'est qu'il y a du chômage, bien sûr.
C'est le déséquilibre.
C'est le fameux déséquilibre. Et donc, il nous dit, ça, c'est la situation normale d'une économie de marché. Et effectivement, on est bien placé en France pour le savoir depuis maintenant 40 ans, que effectivement, c'est normal, c'est logique, c'est inévitable, si on laisse faire le marché, qu'il y ait du chômage, et pas qu'un peu. Et donc, tout à la fin. Mais justement, l'incomplétude de Keynes, dans laquelle vont s'engouffrer ensuite plus tard Milton Friedman dans les années 70, c'est que Keynes n'explique pas quelle est la bonne politique économique pour revenir au plein emploi. Il ne le fait pas. Il dit simplement, voilà, ça serait bien que le taux d'intérêt soit plus bas. Il y a cette phrase un peu mystérieuse dans le dernier chapitre sur la socialisation de l'investissement, qui n'est pas très claire. On a discuté avec André Orléans. Lui, il pense que ça ne veut pas dire que c'est une nationalisation. C'est plutôt l'idée qu'il y a une décision collective, mais qui n'est pas forcément publique, qui n'implique pas forcément les travailleurs. Bref, à la fois chez Marx et chez Keynes, ce sont d'abord, et c'est pour ça qu'ils sont restés dans l'histoire, des connaisseurs incroyablement pertinents de leur époque, qui observent ce qui se passe. Et les deux nous disent, il y a des gens qui décident pour les autres, vous les appelez capitalistes, vous appelez entrepreneurs, vous appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, ce sont ces gens-là qui fixent le niveau de l'emploi, ce sont ces gens-là qui décident des biens de consommation, ce sont ces gens-là qui matériellement, psychologiquement, et même aujourd'hui on pourrait dire avec la publicité, dans l'imaginaire, on a beaucoup parlé récemment de l'imaginaire des enfants avec le débat sur les avions, l'imaginaire est façonné par ces gens-là. Nos désirs, même nos croyances les plus profondes, sont très fortement façonnés par les gens qui produisent les objets, qui produisent les messages avec la publicité.
Ce qui veut dire que si on ne se saisit pas justement de cet aspect de la production, si on se contente simplement de faire du travail sur la circulation, eh ben finalement on ne règle pas les problèmes qui sont liés, ces problèmes de déséquilibre dont vous parliez à l'instant. Et effectivement, aujourd'hui, on se voit bien qu'en plus du déséquilibre social dont vous venez de parler, il y a un deuxième déséquilibre important, fondamental, qui est en jeu, qui est le déséquilibre écologique, l'urgence écologique. Et effectivement, aujourd'hui, cette urgence écologique, elle nécessiterait une nouvelle politique de l'offre.
Ben oui. Et c'est drôle parce que tout le monde le sait, il n'y a vraiment pas besoin d'être économiste, enfin, c'est même mieux de ne pas être économiste, il n'y a besoin de rien, tout le monde comprend ce qui se passe. Mais en fait, on nous a tellement mis dans la tête cette idée de la société de consommation, on a tellement fait croire, ce qui est une absurdité totale, que c'est le consommateur qui décide, que dans les politiques, dans les tout petits débuts de politiques écologiques qui ont été mis en place dans notre pays, on s'adresse toujours aux consommateurs. Triez vos déchets, réduisez votre consommation. Et ce qui est littéralement fascinant quand vous regardez la publicité, c'est que la télévision, pardon, lapsus révélateur, quand vous regardez la télévision, vous avez littéralement 10 pubs pour des bagnoles, en plus à des prix inaccessibles. On vous impose quasiment d'acheter, vous avez raté votre vie si vous n'avez pas un SUV, un 4x4, 3 voitures, etc. Et ensuite, vous avez un petit message écologiste. C'est quand même sidérant, c'est-à-dire que la première chose à faire, mais qui effectivement est impossible pour le système capitaliste dans son système actuel, c'est qu'il faut fermer le robinet à merdouille, pour prendre un terme technique. Et donc, c'est la première chose à faire. C'est-à-dire qu'on sait très bien, nous tous, dans notre vie, il y a plein de trucs qu'on achète qui sont inutiles, même qui nous rendent malheureux. Donc, mais ça fait de la croissance économique, ça fait des revenus.
Ça répond à une autre nécessité du système économique, qui est celui de la croissance, justement.
C'est ça, ça fait de l'emploi. Et là, j'aimerais bien dire à mes amis de gauche, ou même juste aux gens un peu qui réfléchissent un peu à l'avenir de notre société, je trouve qu'il y a une énorme erreur qui est faite dans le débat public aujourd'hui qui m'embête beaucoup. C'est cette idée sur laquelle les capitalistes auraient besoin de la croissance. C'est évidemment faux. Les capitalistes n'ont pas besoin de la croissance. Pour prendre un exemple brutal, le gars qui domine des esclaves dans son champ de coton au sud des États-Unis au 19e siècle, il a une activité totalement durable. Il n'utilise pas un seul produit chimique. Il utilise des gens. Il ne crée pas une seule pollution. Et il s'enrichit comme un malade. Il n'a pas besoin de la croissance économique. S'il y en a, tant mieux. Il n'a pas besoin de la croissance économique. C'est une énorme erreur de penser que c'est les capitalistes qui ont besoin de la croissance. Ce qui est vrai, c'est que c'est nous qui ont besoin de la croissance. Moi, j'ai besoin de la croissance. Avec ce que me coûte mon logement, j'aimerais bien gagner plus. Donc effectivement, il se trouve que je suis dans des activités plutôt immatérielles, quoiqu'un livre, ce n'est pas du tout immatériel. Donc moi, j'ai besoin de travailler plus pour gagner plus, pour payer mon logement, pour partir en vacances, pour offrir ce dont j'ai envie à ma gamine. C'est les gens normaux qui ont besoin de la croissance économique. Ça, c'est une évidence totale. Donc c'est la gauche qui a besoin de la croissance. La droite, elle n'a pas besoin de la croissance. C'est pas vrai. Je veux dire, la vraie droite, la vraie droite sociologique, les notaires, les médecins, les grands commerçants, ils savent même pas combien ils gagnent, ces gens-là. Ils savent même pas combien ils gagnent. C'est-à-dire que vous leur enlevez 10%, ça change rien à leur vie. Évidemment, si vous leur dites que vous enlevez 10%, ils vont râler. Mais si vous prélevez 10% des revenus de leurs actions, des loyers qu'ils touchent tous les mois, sans leur dire, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Donc ça, c'est une énorme erreur. C'est la gauche qui a besoin de la croissance. Sauf qu'effectivement, historiquement, c'est évident. Et le seul problème, c'est que la croissance, maintenant, elle est impossible. Et moi, je pense, comme d'autres, que en fait, la croissance est vraiment déjà derrière nous. C'est-à-dire qu'on a déjà des phénomènes de destruction très importants. Par exemple, la moitié des départements français connaissent des problèmes de manque d'eau tous les ans. Tous les ans. Il y a des conflits très durs dans le pays, dans des villages. Le fameux barrage de Sivens, la mort de Rémi Fraisse, c'était à propos d'une retenue d'eau. Donc en France déjà aujourd'hui, la question de l'eau, absolument vitale, est un problème sérieux dans beaucoup d'endroits du pays. En France, pays quand même gâté par la nature en termes d'eau à tous les niveaux. Donc pour moi, on est vraiment là. Se poser la question de est-ce qu'on peut encore faire la croissance et tout ça, c'est absurde.
Est-ce que néanmoins, il n'y a pas, vous dites, bon, c'est la circulation, pour essayer de traduire un peu ce que vous dites, c'est la circulation finalement qui a besoin de la croissance, pas vraiment la production. Néanmoins, il y a un système, vous l'avez dit, il y a ce déséquilibre qui fait que les gens veulent des emplois bien payés, et que ces emplois bien payés sont au service d'un certain mode de production, et que tout ça fait la croissance. Donc il y a quand même un système dans lequel sont intégrés les capitalistes qui fabriquent cette croissance-là. Si aujourd'hui on ne produit pas autrement et autre chose, c'est aussi parce que finalement l'ensemble du système capitaliste a l'impression finalement d'en sortir gagnant. Et c'est un discours qu'on entend assez régulièrement. On sort les gens de la pauvreté, le libre-échange a sorti les gens de la pauvreté dans les pays émergents, ça permet de redistribuer, ça permet d'organiser la protection sociale. La protection sociale serait dépendant justement de cette croissance. Donc ça, c'est un discours contre lequel il faudrait, selon vous, lutter aujourd'hui.
Alors, moi, ce que je pense amène à un autre débat, mais qui est là aussi, qui est quand même la base de l'économie classique et qu'on trouve notamment chez David Ricardo, c'est la question de la rente. D'ailleurs, dont vous parlez beaucoup dans votre ouvrage très juste sur Macron, vous dites, pour Macron, c'est l'État qui crée les rentes, c'est la protection sociale qui crée les rentes. Et alors là où je serais d'accord avec ce cher Emmanuel, c'est que la question de la rente est la première question aujourd'hui dans le fonctionnement de l'économie. Mais évidemment, c'est pas ces rentes-là, même si elles peuvent exister, qui sont problématiques, c'est la rente foncière, c'est la rente urbaine, c'est la rente des banques, c'est la rente des assurances, c'est la rente des laboratoires pharmaceutiques, c'est même la rente de certaines professions libérales. Donc là, si on prenait, mais ce que personne ne fait, parce que comme le disait très bien Bernard Maris, personne n'est libéral. Parce que vous avez compris ce que c'est que d'être libéral, c'est-à-dire que là, nous tous, sommes en train de travailler, le libéralisme, c'est que demain, notre emploi, il est remis en jeu sur le marché du travail. Personne ne veut ça. Le libéralisme, c'est la cage de fer, c'est la concurrence de tous contre tous en permanence. Personne n'est libéral. Personne n'est libéral. C'est évident. Mais si on était un tout petit peu plus libéral, effectivement, on pourrait dire... les rentes qui étaient dénoncées par David Ricardo comme étant justement un obstacle au bien-être, à la croissance économique, il faudrait lutter très fortement contre les rentes. Mais là, le problème qu'on a, c'est que ces rentes qui pénalisent la majorité de la population, elles bénéficient d'une minorité très organisée. Il suffit de regarder évidemment les professions qui sont représentées parmi les ministres, parmi les députés, parmi les dirigeants évidemment d'entreprises, qui, exemple très simple, on sait que dans plein de grandes villes aujourd'hui en France, il faudrait baisser fortement les loyers. Ça bénéficierait fortement à la population et ça permettrait aux gens de vivre mieux, même en gagnant moins. Et donc, ça résoudrait à la fois le problème social et donc ça permettrait de résoudre le problème écologique. Parce que là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient vivre aussi bien et même mieux en gagnant moins si leurs dépenses contraintes étaient beaucoup plus faibles. C'est-à-dire que si le coût de l'énergie est maîtrisé, si le coût de leur compte en banque est maîtrisé, si le coût du logement est maîtrisé, vous pouvez gagner moins et vivre mieux, évidemment. Et c'est ça le programme, finalement. Ça devrait être ça, le programme de la gauche aujourd'hui, qui soit à la fois écologique et sociale. Mais là, regardez, quand même, vous l'avez dit, notamment sur l'immobilier, vous avez des groupes d'intérêts très fortement constitués qui vous expliquent que toucher au loyer, on vous sort toujours le petit propriétaire qui vit du loyer, vous allez l'étrangler, etc. C'est pas du tout ça, la réalité sociologique. Mais il faudrait toucher à ça. Mais pour revenir à la question fondamentale d'aujourd'hui, ce débat sur la production, il est vraiment basique dans l'économie politique. Mais la discipline, justement, est sortie de l'économie politique depuis au moins 30 ou 40 ans. Et le grand débat socialisme versus capitalisme, le grand débat nationalisation versus privatisation, il a structuré la discipline depuis toujours. Et aujourd'hui, en fait, et c'est ce qu'on voit avec le revenu universel, on a tellement perdu du terrain qu'on est maintenant au troisième ou quatrième niveau. Parce que la première lutte, c'est qu'est-ce qu'on produit ? Qui décide de qu'est-ce qu'on produit ? Le deuxième niveau, c'est une fois qu'on a décidé ce qu'on produit, comment on partage les richesses ? C'est le partage salaire-profit. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait pour les pauvres ? Qu'est-ce qu'on fait pour les malades ? Qu'est-ce qu'on fait pour les retraités ? C'est la protection sociale. Ça, c'est le troisième niveau. Protection sociale, fiscalité. Et comme on a perdu à gauche, même dans l'imaginaire de gauche, l'idée qu'on puisse contrôler la production, comme on a perdu avec la modération salariale depuis les années 80, l'idée qu'on puisse augmenter les salaires. Vous n'avez aucun dirigeant de gauche aujourd'hui qui appelle à augmenter les salaires. Moi, je participe à des émissions sur BFM Business. J'ai des vice-présidents du MEDEF qui disent oui, qui disent à l'antenne, oui, je sais qu'il y a plein de gens qui sont trop mal payés. Mais je n'entends aucun dirigeant de gauche aujourd'hui, alors que la campagne présidentielle a commencé, dire il faut augmenter les bas salaires. On a abandonné ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste Piketty. Piketty nous dit on peut redistribuer, on peut taxer l'effort patrimoine, etc. Mais vous voyez que c'est déjà, on est déjà au troisième niveau. C'est-à-dire qu'on a totalement abandonné dans l'imaginaire les deux premiers niveaux. Et comme les gens mal informés pensent qu'on ne peut pas taxer plus les hauts patrimoines, etc., alors que Emmanuel Saez, par exemple, et Gabriel Zucman montrent dans leur dernier ouvrage très concrètement comment faire, ils montrent que c'est possible, ils montrent que ça existait dans l'histoire et que c'est possible aujourd'hui, mais comme les gens savent que c'est impossible, on en arrive au quatrième niveau, qui est l'allocation universelle, c'est-à-dire de dire « je ne décide pas du niveau de production, je laisse tomber les hausses de salaire, je laisse tomber la fiscalité redistribution vraiment redistributive » comme elle a existé dans les pays nordiques ou aux États-Unis avec des taux de taxation très élevés. Et finalement, je file un truc à tout le monde. Et voilà, le marché, entre guillemets, parce qu'il faudrait 3 millions de guillemets, a totalement gagné, a tout envahi. Et voilà, et j'en arrive là.
Et donc, c'est finalement un peu ça le principe. C'est que, d'une certaine façon, avec... alors, je vais utiliser un terme un peu barbare, mais la théorie de l'utilité marginale qui avait remplacé, en fait, la théorie de la valeur travail dans le débat dès le début du XXe siècle, mais beaucoup à partir du triomphe du néolibéralisme dans les années 60-70, cette théorie de l'utilité marginale, finalement, elle dit tout se règle par les équilibres de marché. Et donc, il n'y a pas à s'occuper de la production, puisque finalement, les besoins sont gérés par le marché. Et donc, à partir de ce moment-là, la production s'ajuste aux besoins du marché et on n'en parle plus. C'est ça qu'il faut retourner, selon vous. C'est précisément ne pas attendre du marché qu'il envoie les signaux des besoins, mais définir les besoins en amont pour organiser la production en fonction de ces besoins.
Mais exactement. Alors, pour faire un tout petit moment d'histoire de la pensée contemporaine, on a cette création incroyable dans les années 70 des modèles d'équilibre général. Et ces modèles d'équilibre général qui sont en fait toujours l'horizon des économistes aujourd'hui, ce sont des modèles d'échange pur. C'est-à-dire que ce sont des modèles où il n'y a pas d'entreprise. Et dans les cours, chacun peut regarder les programmes des facs aujourd'hui d'économie en France, il n'y a pas de cours sérieux sur la production. Ça n'est pas vrai. C'est des choses que vous voyez éventuellement en master si vous êtes spécialisé dans ce domaine-là. Les étudiants qui sortent de la fac de sciences économiques aujourd'hui, sans parler évidemment des étudiants qui sortent de Sciences Po ou de l'ENA, ne connaissent pas le système productif français. Ils ne savent pas ce qui est produit en France, où, quand, comment, quels sont les métiers, quels sont les processus. Et donc, c'est bien pour ça que l'écologie fait s'effondrer tout ça. C'est comment voulez-vous traiter la question écologique si vous ne connaissez pas la réalité du monde dans lequel vous vivez? Et donc la force intellectuelle qui a tout emporté, parce qu'effectivement maintenant ça fait 50 ans depuis les années 70 du modèle néolibéral, c'est ce fameux modèle d'équilibre général où tout est échange. Donc il faut quand même que les gens comprennent bien que dans les facs d'économie, on a enseigné pendant des décennies un modèle complètement absurde, hyper puissant sur le plan mathématique, décrivant un monde de troc. Un monde de troc où il n'y a pas de monnaie. Donc, dans ces équations.
Et où on a des agents rationnels.
Des agents totalement
rationnels. Qui, en plus, ont une durée de vie quasiment illimitée.
Exactement. Capables de tout calculer, qui connaissent leurs besoins, leurs préférences. Et donc, dans ces modèles.
Qui sont parfaitement informés sur tout.
Qui sont parfaitement afférents sur tout, déjà sur eux-mêmes. Alors que chacun, quand on sait qu'on rentre dans un magasin, regardez quand vous rentrez au supermarché, ce que vous pensez acheter, regardez ce qu'il y a dans votre caddie à la sortie, enfin, quand vous avez les moyens. Donc, l'idée qu'on est rationnel, c'est quand même totalement absurde, bien sûr. Mais en plus, dans ces modèles-là, il n'y a pas d'argent. Donc il n'y a pas de banque, il n'y a pas de bourse, donc il ne peut pas y avoir de crise boursière. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas venir les crises boursières. Il n'y a évidemment pas d'État, d'accord? Donc même l'État minimal, armée, police, justice, il n'existe pas. Donc évidemment, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de sécurité sociale. C'est un monde complètement vide, qui n'a aucun sens. Et en fait, ce modèle mathématique, c'est un échec. C'est-à-dire que c'est la volonté de vouloir mathématiser le marché, c'est un échec. Et les auteurs du modèle le savaient. Mais là, il y a eu un énorme mensonge... qu'il faut quand même dénoncer à un moment des économistes qui ont fait semblant qu'on avait, comme l'avait dit Gérard Debreu à l'époque dans une interview au Figaro, démontré la supériorité de l'économie de marché. En fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand Gérard Debreu fait ce modèle avec l'Américain Kenneth Arrow dans les années 50, ils ont le prix Nobel dans les années 70, et Arrow, qui d'ailleurs était en fait lui un socialiste, est très honnête et il dit « on voit bien que l'économie de marché pure, c'est impossible ».
En fait, donc, il avait prouvé la propre inanité du modèle qu'il avait démontré
mathématiquement. Exactement. C'est-à-dire que les gars, ce qui est fascinant en termes d'histoire intellectuelle, ils veulent démontrer l'idée que voilà, le marché auto-équilibré peut exister. Ils se donnent un travail de chien, c'est des mathématiciens. Là, on parle de maths, on n'est pas du tout dans l'économie. Ils font des trucs que personne n'arrive à comprendre, à peu près, sauf eux. Et ils arrivent à un résultat qui met totalement à terre le programme de recherche, en fait, de l'économie libérale depuis 2 siècles. Et donc là, en fait, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité, c'est de dire tout est possible, tous les choix sont possibles. Notamment, il y a un bouquin de Frédéric Lordon sur les quadratures de la politique économique, un de ses premiers bouquins, où il explique tout ça, il le dit, tout ça. Il dit, en fait, tout est possible du point de vue théorique. Mais évidemment, là, pour les paniques chez les économistes, de dire, bon, et on n'a plus rien. Hein, on n'a plus rien, on n'a plus de biscuits, quoi, on n'a plus rien dans le sac à dos, on n'a plus rien à vendre. Donc on va faire l'inverse. On va matraquer, j'en ai fait partie, et j'ai protesté contre ça, les étudiants dans le monde entier, parce qu'il faut savoir que l'enseignement de l'économie, il est unifié dans le monde entier depuis 40 ou 50 ans. Ça, c'est fascinant. C'est-à-dire que tout le monde travaille sur les mêmes modèles, sur les mêmes auteurs américains, sur les mêmes manuels américains. Et tout le monde a sué sur ces équations extrêmement compliquées de ce modèle d'équilibre général qui repose sur des hypothèses complètement absurdes et qui vous dit rien de la réalité. Et par contre, c'est ce modèle-là, c'est ça qui est fascinant, comme le racontait Robert Boyer dans un des cours où j'avais suivi, qui était dans les ordinateurs portables des économistes du FMI quand ils allaient dans un pays pauvre. Et que donc, c'est ce modèle faux qui est utilisé pour justifier des vraies mesures dans la réalité, qui sont le programme de l'OCDE et du FMI dans les années 80-90, privatisation, dérégulation, baisse du nombre de fonctionnaires, baisse des aides sociales, etc.
Et qui est encore utilisé aujourd'hui, d'ailleurs, dans les banques centrales et dans certaines organisations internationales. On va avancer sur les méthodes pour justement trouver, sortir de ce piège qu'on vient de décrire. Et on a vu qu'on devait en sortir d'une certaine façon par une définition des besoins. Alors, définir les besoins de la société, ça peut passer que par des moyens démocratiques, si on est démocrate, évidemment, ce qui est notre cas. Donc, on est sur ce schéma-là. Dans votre livre, vous évoquez ce projet d'une démocratisation, finalement, de la production, d'une démocratisation des décisions de production qui intégrerait les travailleurs, les usagers, d'autres représentants, et qui permettrait justement non seulement d'améliorer les conditions de travail des travailleurs, et ça c'est un élément sur lequel vous insistez, mais aussi justement de réorganiser la production pour sortir justement de ce piège où les besoins sont déterminés uniquement par le marché.
Ben oui, ça, il me semble que c'est quand même quelque chose d'assez basique et d'assez fondamental. Donc je me sers beaucoup des travaux de Thomas Coutreau, qui a dirigé des enquêtes très très importantes pour le ministère du Travail. Et la première chose que nous montre Thomas Coutreau, c'est qu'il y a une souffrance au travail qui est très importante. Et cette souffrance, si on veut juste faire l'économiste, elle a des coûts monstrueux. C'est-à-dire qu'on voit bien que la question du système de santé, elle est première aujourd'hui. Et que la première chose, évidemment, pour réduire la pression sur le système de santé, c'est que les gens ne tombent pas malades. Et une des toutes premières causes de mal-être, physique et psychologique, et qui peut conduire à des choses extrêmement graves, des maladies invalidantes, des cancers, etc., c'est les conditions de travail. Et là aussi, la gauche s'est beaucoup battue depuis toujours, en fait, comme le rappelle justement Thomas Coutreau ou d'autres auteurs comme Michel Husson, les premières luttes sociales ne sont pas pour le salaire, c'est pour les conditions de travail. C'est réduire la durée de travail, arrêter de mourir au travail, etc. Or, on avait cet espoir qu'avec les nouvelles technologies, ça allait s'améliorer. Maintenant, tout le monde le sait, ça se dégrade. C'est-à-dire qu'il y a un flicage des salariés qui est terrible. Il y a eu le fameux reportage d'Envoyé spécial sur les caissières de Lidl. Tout le monde sait ce qui se passe dans les entrepôts d'Amazon. Vous avez aujourd'hui les chauffeurs routiers dont l'activité est mesurée chaque seconde. Les commerciaux, tout le monde est fliqué par les nouvelles technologies.
Les livreurs,
c'est une évidence absolue, etc. Donc, ce que montre Coutreau, qui est dingue, c'est qu'il nous dit, il y a au maximum un tiers des gens, en fait, à qui le travail ne nuit pas. C'est-à-dire que la majorité des gens tombent plus ou moins malades à cause de leur travail. Donc ça, c'est déjà une raison fondamentale pour que les gens reprennent le contrôle sur leur travail. Et nous dit, le problème, c'est pas de porter des charges lourdes, c'est pas de travailler dehors, c'est d'avoir le contrôle. C'est-à-dire de pas être soumis à des clients au téléphone qui vous hurlent dessus toute la journée, de pas être soumis à un chef tatillon et arbitraire, de pas être soumis à une machine qui vous impose des cadences, de pouvoir décider de votre travail. D'ailleurs, c'est très intéressant, là, une des mesures les plus rude contre le monde du travail vient d'être pris par le gouvernement en autorisant maintenant les patrons à notifier aux gens 24 heures à l'avance une semaine de congé obligatoire. Alors que la maîtrise de l'emploi du temps, quand vous avez une famille, quand vous avez juste une vie en dehors du travail, ce à quoi d'ailleurs s'autorisent les ministres en permanence, décider de vos congés, c'est un aspect fondamental de votre bien-être. Donc là, on réduit le bien-être des gens. En plus, je vois absolument pas l'intérêt de la mesure, mais ça montre bien le problème que pose la liberté. Et c'est en ça que le gouvernement est pas du tout libéral. Il a pas du tout envie que les gens soient libres dans leur vie et fassent leur vie comme ils le souhaitent. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est la santé. Le deuxième aspect, qui est une des principales découvertes que j'ai fait dans mon livre, c'est que Coutreau montre que les gens qui n'ont pas le contrôle dans leur travail s'auto-disqualifient dans la vie sociale. Ça, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'ils participent moins aux associations, ils participent moins à la vie politique, ils s'abstiennent plus que les autres aux élections, et quand ils vont voter plus souvent pour le Rassemblement national que les autres. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est connu des sociologues depuis très longtemps, c'est que les gens à qui on ne demande pas leur avis au travail, les gens qui ne sont pas écoutés, les gens qui ne sont pas consultés, ben, ils tombent malades, ils pensent qu'ils ne valent rien, et donc ils ne sont pas capables de s'exprimer et de participer à la vie politique. Donc ça, c'est une deuxième raison majeure pour, au moins, que les gens aient quelque chose à dire sur la façon dont leur travail est effectué. Et la troisième chose, effectivement, c'est de répondre aux besoins sociaux. C'est de répondre aux besoins sociaux. Et là, tout de suite, c'est marrant, parce que dès qu'on dit le truc de besoin, là, c'est la panique chez les économistes. Mais qui tu es pour dire de quoi les gens ont besoin, etc. Bon, déjà, il y a plein de procédures démocratiques très simples qui existent, ça s'appelle le vote ou les budgets participatifs dans les communes. Puis on sait, en fait, aussi sur de quoi les gens ont besoin. Bah, ils ont besoin, voilà, d'avoir un boulot, salaire correct, logement, santé, transport. C'est à basique de chez basique. Mais comme vous l'avez très bien dit, la théorie, la pseudo-théorie libérale a tellement vendu cette histoire de l'utilité que quand on consomme, vous voyez, cette idée, c'est quand même fascinant, que quand on est tous, enfin, on a tous des achats compulsifs, on le sait bien, quand on est fatigué, on achète des conneries sur Internet, enfin, puis on est manipulé par des gens dont le boulot, qui sont extrêmement brillants, qui sont les plus grands cerveaux de la planète. Où est-ce qu'ils sont les plus grands cerveaux de la planète aujourd'hui? Ils sont chez Google, ils sont chez Apple. Et le rôle de ces gens-là, qui sont des mathématiciens hyper brillants, qui bossent avec des psychologues, qui bossent avec des économistes, tout ça, on peut l'observer très facilement avec qui ont les plus grands budgets de recherche du monde aujourd'hui. Ces gens-là, leur boulot, c'est qu'on prenne les décisions qu'eux, ils veulent qu'on prenne. Ben, évidemment qu'ils y arrivent. Ces gens-là, c'est juste des génies, ces mecs-là. Et dans une autre société, ils seraient en train de chercher des vaccins contre le Covid, mais là, ils sont en train de nous faire manipuler pour que j'achète le 4...
C'est-à-dire 15... que le mode de production produit ses propres besoins.
Exactement.
Et c'est pas quelque chose, un processus naturel ou humain, forcément. C'est le mode de production qui produit les besoins. Donc, si on change le mode de production, on va aussi changer production de besoins. Un élément intéressant là-dessus, c'est qu'effectivement, on comprend bien l'enjeu démocratique, en fait, de cette politique, nouvelle politique de l'offre. Néanmoins, lorsque l'on a donné du pouvoir aux salariés dans certains cas, je pense à l'Allemagne notamment, où effectivement il y a des représentants salariés au conseil d'administration, il y a une démocratie d'entreprise qui est un peu plus élevée, même si ça reste très, très modéré que chez nous. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, le chantage à l'emploi est une force, et là encore on retrouve le lien de pouvoir entre depuis le marché vers le travailleur et pas l'inverse, le chantage à l'emploi est une force qui fait prendre en fait aux gens des décisions contre leur propre intérêt. Dans le cas de l'Allemagne, il y a eu cette modération salariale pendant 25 ans qui a fait du mal à l'Allemagne et au reste de la zone euro, et à nous, Français également, et au reste du monde d'ailleurs avec la crise de la dette. D'une certaine façon, est-ce que un des enjeux de cette politique de l'offre, c'est pas aussi de casser ce chantage à l'emploi, et comment on pourrait le casser?
Alors, pour revenir à votre exemple, effectivement, en Allemagne, alors, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? C'est que en Allemagne, donc, on a une industrie qui est très forte, avec des travailleurs qui sont très qualifiés, qui ont des salaires très élevés. Et ces gens-là, ils ont compris qu'effectivement, la spécificité de l'Allemagne depuis quasiment toujours, depuis le 19e siècle, hein, c'est l'ouverture vers l'extérieur. C'est-à-dire que l'économie allemande, elle est tirée par le commerce mondial depuis toujours, ce qui est une énorme différence avec la France. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'idée d'une politique commune économique entre ces deux pays n'a strictement aucun sens. Bref. Et donc, ces gens-là, qui décident, parce que là, c'est des travailleurs qualifiés qui, comme vous dites, sont associés aux décisions avec les processus de codétermination allemande, ils voient que le bon calcul pour eux, ils sont rationnels. Et c'est ce que dit toujours Keynes, les gens sont toujours rationnels dans leurs décisions les plus basiques, ils voient qu'ils ont intérêt, effectivement, à limiter les augmentations de salaire pour être compétitifs sur la scène mondiale, parce qu'ils vont tellement plus vendre que ça va préserver leur emploi. Ça va même permettre éventuellement d'augmenter l'emploi, que donc pour eux c'est le bon calcul. Et donc là, vous avez un alignement des intérêts entre ces travailleurs qualifiés et effectivement le patronat, les actionnaires, la finance, tout le monde est content. Alors ce qui se passe aussi, c'est que ces gens-là qui sont majoritairement des hommes, les entreprises allemandes vont beaucoup externaliser tous les services, hein, les services de nettoyage, services informatiques, etc. Et là, il va y avoir un massacre salarial, une concurrence absolument terrible, et c'est notamment des boulots qui vont être plus féminins, plus accordés aux immigrés, etc. Donc en fait, là aussi, il faut relire Marx, hein, c'est qu'il n'y a pas que deux classes sociales dans la société, et que là, on a en fait, hein, pour simplifier un peu, des hommes blancs très qualifiés qui font un calcul cynique qui leur bénéficie à eux, mais qui bénéficie à leur entreprise, mais qui ne bénéficient pas à l'économie allemande. Et d'ailleurs, il faut quand même faire savoir que le taux de pauvreté en Allemagne est très élevé, et encore beaucoup plus élevé que chez nous, que des millions de retraités allemands sont obligés de retourner au travail parce que leurs retraites ont été massacrées par le camarade Schröder, soi-disant social-démocrate, avec son agenda Allemagne 2010 qui a été adopté au début des années 2000. Donc il faut quand même bien savoir que la situation sociale en Allemagne est encore beaucoup plus dégradée qu'en France, alors que, contrairement à nous, effectivement, l'Allemagne engrange des excédents commerciaux, que hors Covid, elle a des excédents budgétaires, que c'est un pays qui économiquement va très bien, mais qui socialement va très mal. Donc maintenant, effectivement, pour la France, comment faire? C'est sûr que j'ai évidemment pas la solution à tout. Ça me paraît nécessaire, déjà, pour le bien-être des gens qui participent aux décisions. Et effectivement, un des nœuds du problème, c'est évidemment le financement. C'est-à-dire que, là aussi, si on revient à l'écologie, il est absolument évident qu'on ne peut rien faire de sérieux dans le domaine écologique si on n'a pas un pôle de financement public très solide, et si on n'a pas la maîtrise sur l'ensemble du secteur énergétique. C'est-à-dire qu'évidemment que tant, et aujourd'hui, une des grandes, grandes erreurs qu'on a tous fait, qui a été fait dans tous les pays développés, c'est d'abandonner les services publics, y compris dans leurs aspects les plus techniques, les plus aspects productifs. Le gouvernement est en train de démanteler EDF actuellement. Il est bien évident que c'est l'inverse qu'il faut faire, et qu'un des rares avantages, mais qui n'arrivera pas, de la construction européenne qui nous avait été vendue en 2005 au moment du débat sur la Constitution, c'était de créer des fameux services publics européens, de l'énergie, etc., ce qui avait du sens sur le papier, ce qui ne pouvait pas arriver étant donné la réalité de la construction européenne, mais comme là aussi, comme on n'enseigne pas à nos enfants, au collège, au lycée, l'Union européenne, c'est pas enseigné. Le système productif français, ça n'est pas enseigné. Enfin, rien de ce qui est essentiel dans la réalité n'est enseigné à nos enfants. Et donc, quand on a des gens qui se retrouvent adultes, sont matraqués par tout un bruit anti-étatique, pro-marché, etc., et ben les gens savent, par exemple, qu'il y a plus de fonctionnaires en France qu'aux États-Unis, alors que c'est faux. Ramené au nombre d'habitants, il y a plus de fonctionnaires aux États-Unis, notamment du fait de l'importance de la police et de l'armée, où les gens savent que les dépenses publiques sont plus élevées en France qu'ailleurs, alors qu'en fait, c'est faux, c'est la sécurité sociale à laquelle absolument tout le monde bénéficie. Quand vous êtes enfant, vous touchez les allocations familiales. C'est vos parents qui les touchent, mais ça ruisselle pour le coup sur vous. Bref, donc toutes ces idées fausses circulent, et il faut absolument... je ne sais pas, faire des trucs évidents. Et alors là, c'est assez drôle parce que je ne l'avais jamais lu, mais on va célébrer les 50 ans du programme commun de la gauche que chacun peut trouver, de mars 1972, ça ne nous rajeunit pas. Et toutes ces questions sont présentes. Et même, je trouve un texte qui est très beau, qui est très fort. On parle de ségrégation sociale à l'école, on parle de démocratisation de l'économie. Ben voilà,
c'était effectivement
les débats sur l'autogestion, etc.
Une des ambitions de ce programme commun, la démocratisation de l'économie, qui est donc, on l'a vu, un des enjeux importants. Pour terminer, peut-être un point sur le commerce international, la mondialisation, c'est un point important dans la politique de l'offre et l'offre productive, parce que c'est le point sur lequel effectivement les néolibéraux s'appuient pour justifier récemment la baisse des impôts sur la production, pour justifier les réformes structurelles, tout ça au nom de la compétitivité. Vous pensez qu'il faut avoir recours à une forme de protectionnisme aujourd'hui?
Évidemment.
Et est-ce que aujourd'hui on a besoin de ces réformes structurelles, de libéralisation du marché du travail, etc., ou est-ce que au contraire on doit protéger justement le travail?
Voilà. Ça serait vraiment une autre émission, mais c'est vraiment un des pires échecs intellectuels de ma profession et malheureusement du fonctionnement, je dirais, médiatique dans son ensemble, ce truc sur la mondialisation et le libre-échange. Par exemple, une phrase que tout le monde connaît, c'est « selon les économistes, le libre-échange profite à tous ». Il n'y a aucun économiste qui ne dit ça. Enfin, je dirais, aucun économiste qui, en tant qu'économiste, ne dit ça. Le modèle de Ricardo, par exemple, qui fonde tout ça, c'est un modèle qui est faux. Ricardo, en fait, le dit lui-même, parce que son modèle ne marche que s'il n'y a pas de mobilité des capitaux. C'est-à-dire que le modèle de Ricardo avec les deux pays qui fondent tout l'imaginaire sur le libre-échange, que David Ricardo écrit en 1817, il suppose qu'on a deux pays, et tout ne marche que si les profits ne peuvent pas aller d'un pays à l'autre, ce qui est absurde déjà à son époque, et évidemment totalement absurde aujourd'hui. Voilà. D'autre part, si on regarde les travaux empiriques que je cite dans le premier chapitre de mon bouquin, quelqu'un comme Danny Roderick, qui est prof à Harvard, qui pour moi est le meilleur économiste sur cette question-là, il a bossé comme un taré sur toutes les statistiques, et il dit quelque chose de simple, il dit évidemment que le libre-échange ne crée pas d'emplois. Évidemment que le libre-échange ne crée pas d'emplois. Et pourquoi est-ce qu'il en créerait? Il y a des emplois qui sont créés dans les secteurs exportateurs, puis il y a des usines qui sont délocalisées et qui ferment. Donc il montre, il fait des travaux, puisqu'on sait maintenant ce que donne le libre. C'est ça, l'avantage, ce qui est bien, c'est que maintenant les politiques libérales sont tellement vieilles qu'on connaît leurs résultats. Et en fait, ce que je montre dans mon bouquin et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a un consensus chez les économistes honnêtes et intelligents pour dire ça a bien, bien foiré. Mais sauf qu'ils n'ont rien à mettre à la place, donc ils ne le disent pas trop. Mais quand on regarde, encore une fois, je cite des gens les plus célèbres du monde, des gens ultra sérieux, etc., ils le disent tous, ça a totalement foiré. Mais sauf qu'ils n'ont rien à vendre à la place, donc ils ne le disent pas trop. Mais ce que nous dit Rodrigue, par exemple, sur l'accord de libre-échange nord-américain, il nous dit la productivité moyenne du Mexique s'est effondrée. C'est-à-dire que l'argument selon lequel la mondialisation bénéficierait aux pays pauvres, il dit non seulement le Mexique n'en a pas bénéficié, mais le Mexique s'est évidemment fait défoncer par l'industrie américaine. Hein, parce que l'accord de libre-échange, c'est Mexique, États-Unis, Canada. D'autres travaux montrent, par exemple, le marché unique européen n'a quasiment pas amené de croissance. Hein, c'est 0,07% par an de plus grâce au marché unique. Donc ça ne marche pas, la mondialisation. Et ce que nous dit Rodrigue dans son grand bouquin, malheureusement non traduit en français, il dit bien sûr que la mondialisation fait des perdants. Mais évidemment. Et même Grégory Mankiw, qui est l'économiste le plus ultra néolibéral, avec dans son manuel le plus vendu au monde, dans son chapitre sur le commerce international, dit bien sûr que le libre-échange fait des perdants, mais tout le monde le sait. Et Mankiw, pas Rodrigue parce que lui il est honnête, Mankiw imagine un mécanisme qui ferait que les gagnants compenseraient les perdants, qui passe par l'État. Donc de toute façon, la seule justification théorique de la mondialisation, c'est un mécanisme de redistribution qui implique l'État. Donc comme théorie néolibérale, c'est quand même très très nul. Et surtout, ce mécanisme, il n'existe pas. Ou alors, ça s'appelle l'impôt, les allocations chômage, etc. Et
pour revenir, les capitaux vont dans des pays où il y a peu ou pas d'impôts.
Non, puis surtout, enfin, je veux dire, quand pour le coup on regarde la carte de France, on voit bien que les territoires qui se sont fait défoncer par la mondialisation du nord de la France, on sait dans quel état ils sont. Donc si nous, hein, les gens comme moi qui gagnent la mondialisation parce que je peux acheter des trucs moins chers, si j'avais compensé ces gens-là, ça se saurait. Et quand on va dans ces territoires-là, on voit bien que ça n'a pas eu lieu. Là aussi, il y a des études très fines qui ont été faites sur l'électorat Trump. Trump a le plus fait de voix dans les secteurs des États-Unis qui se sont plus fait défoncer par la concurrence chinoise. Aujourd'hui, quand vous achetez des produits chinois en France, vous savez bien que ces produits ne respectent pas les normes sociales et environnementales européennes. C'est une concurrence totalement déloyale. Il n'y a aucun économiste sérieux qui peut vous dire qu'une concurrence déloyale est optimale ou même justifiée, etc. Ça n'a strictement aucun sens. Les gens disent ça sur les plateaux télé, mais je veux dire, si on est un minimum sérieux, personne ne dit ça. Mais il y a ce fantasme que le libre-échange profitera à tous, alors qu'on sait très bien tous que c'est faux, et on sait très bien que le libre-échange est en train, et c'est exactement la thèse de Danny Rodrigue, quel est le sous-titre du livre de Danny Rodrigue sur le paradoxe de la mondialisation, que j'espère vraiment, si un éditeur m'écoute, qu'il faut absolument traduire en français, c'est un bouquin dément, et le sous-titre de l'ouvrage de Rodrigue, c'est de dire que la mondialisation et la démocratie sont incompatibles. Et il le démontre dans le bouquin. Et c'est un bouquin qui a 10 ans maintenant, et les faits lui ont totalement donné raison. C'est Trump, c'est le Brexit, c'est l'extrême droite en France, c'est l'extrême droite en Europe. Parce qu'effectivement, il y a un conflit. La mondialisation fait exploser les sociétés et les gens se tournent vers des solutions totalitaires. C'est totalement évident. Donc, très bien. Juste pour répondre, les réformes structurelles, évidemment qu'il faut des réformes structurelles. Bon, c'est un truc très basique, qu'il y ait des livres dans les facs, qu'il y ait des profs dans les écoles, qu'il y ait des flics bien payés, bien formés dans les commissariats. Donc s'il y a une chose à faire qui devrait, je trouve, rassembler aujourd'hui la droite et la gauche, c'est qu'on prenne conscience de l'effondrement de nos services publics et que la structure matérielle et physique de notre société, c'est les services publics, on est des gens bien payés, bien considérés, formés, suffisamment nombreux, que les soignants puissent se reposer et que voilà, santé, éducation, police, justice, l'état de justice est complètement dingue, l'aide à l'enfance, on laisse crever des dizaines de mineurs défavorisés, des dizaines de milliers, enfin c'est dément, donc qu'on fasse ça.
Donc refonder et démocratiser, ce sera les deux piliers de notre politique de l'offre alternative qu'on a essayé de définir brièvement, mais tout de même un petit peu tout de suite. Je crois que vous avez
un petit moment publicitaire.
Voilà, un petit moment de
c'est que effectivement
recommandation.
Donc un des meilleurs économistes français, Michel Husson, un ouvrage brillantissime qui est vraiment un peu passé inaperçu quand il n'a pas du tout le public qu'il méritait. Le capitalisme en 10 leçons avec des dizaines de dessins. Tous plus géniaux, intelligents et hilarants du regretté Charb. Donc, et notamment, là, le chapitre 4, sur lequel je me suis beaucoup basé aujourd'hui, de quoi avons-nous vraiment besoin ?
Voilà, on le recommande aussi. Et on recommande votre livre, donc, Économie, on n'a pas tout essayé, aux éditions du Seuil, qui est encore disponible
dans la librairie. Tout à fait.
C'est ça. Voilà. Et moi, je vous dis à bientôt et je vous retrouve pour une autre émission de L'écho à contre-courant.